Bonjour à toi, enfant du futur immédiat. Toi qui voudrais un pot de glace encore plus gros que ton ventre, petit gourmand. Dans un précédent épisode, nous parlions de réduire les dimensions d'un appareil sans réduire ses fonctions. Aujourd'hui, on va te conter l'inverse. Dans les années 80, t'étais in quand tu exhibais ton radiocassette à pile. Et si celui-ci aurait dû normalement se réduire en dimensions au fur et à mesure qu'on avançait dans la décennie, il connut brusquement l'effet inverse pour devenir un engin de plus en plus gros. On l'appela alors le Ghetto Blaster. Ou encore le Boombox. Ouais, gros. Ça faisait gros, donc ça faisait plus puissant. Sauf que quand tu l'ouvrais, tu avais du vide. Comme je l'ai dit dans l'émission consacrée à la miniaturisation, donc la dernière fois qu'on a fait un kill by app, j'ai eu une époque où j'ai pu travailler sur du matériel audiovisuel professionnel. La joie de toucher pour de vrai la cassette Betacam. Une cassette à bande immense, noire, rectangulaire, aux dimensions du divin monolithe de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et si solide que tu pouvais le manipuler d'une manière sûre et franche, car elle n'était pas prête de péter. Le bidule des vrais pros de la télé, un vrai engin de professionnel, le genre matos lourd de chantier BTP a bétonné une 4 voies qui fait passer la VHS de l'époque pour un râteau de sa château de sable. J'étais touché par la grâce. La grâce des dieux. Qu'est-ce qui te fait rire ?
Le titre.
Oh merde ! XMD se ridiculise. Pardon. Enfin, j'étais heureux jusqu'à ce qu'on me demande de regarder professionnellement une saison complète des Power Rangers Time Force. Oui, j'ai appelé ce sentiment la frustra-joie. Mais revenons à nos jouets de pro. Juste à travailler sur un Sony ES7, une station de montage vidéo informatique. Alors imagine une pile de gros boîtiers, un peu comme des appareils de chaîne IFI, tu sais que tu empiles. Tu avais l'ampli, le lecteur de cassette, le lecteur de CD, puis le lecteur de vinyle. Mais en beige, et qui pouvait se raquer dans des baies 19 pouces, donc 43 cm de côté, et idem en profondeur, et sur ce carré sacré, tu empilais sur le gros cube PC, qui d'ailleurs faisait la hauteur de 19 pouces, l'étage lecteur Betacam, le boîtier lecteur enregistreur DVCam Pro, et des boîtiers de disques durs. À l'arrière, chaque boîtier de disque dur avait une imposante connectique, 4 très grosses prises SCSI, enfin en disque-SI à ce qui paraît, qui faisait bien quand même dans les 15 cm de large. Chaque boîtier était relié à la précédente par 2 de ces gros câbles, qui pèsent 1 kg chacun. Ah, j'étais content d'avoir ça. Cette tour faisait professionnel avec ses 1m20 de haut, télé incluse, soit 2 mètres donc posée sur mon bureau. Et bon, à côté de ça, je me trimballais une caméra plus vieille pour aller filmer, mais ça, c'était dans le précédent épisode. 20 jours ou pour rire, on a décidé d'ouvrir un de ces gros boîtiers de disques durs. Et là, la très grande déception. Il faisait 15 cm de haut, mais à l'intérieur, on avait une toute petite carte contrôleur et 2 disques durs en 5 pouces 1 quart, c'est-à-dire environ 15 cm de large, 2,5 de haut et 20 cm de profondeur. Alors, faites le calcul, 27 700 cm3 de volume de boîtier pour 1500 cm3 de disques et d'électronique. En gros, ton chef était très 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 heureux d'avoir acheté un très gros boîtier avec 90% d'espace vide dedans. Tu pouvais même pas étendre, hein. c'était vraiment posé en plein milieu, tu pouvais rien mettre d'autre, t'es pas prévu pour. Beaucoup plus récemment, la radio avait un compresseur en panne. Bon, en radio, un compresseur de son, un compresseur de dynamique, c'est l'engin qui évite que le son sature et que la faible voix d'Anthony semble presque au même niveau que celle de Pia, tandis que la mienne ne sature pas. L'appareil que nous utilisons le plus radio éphémère est un Autocom Pro XL de chez Behringer. C'est un best-seller depuis 20 ans, fais gaffe, attention c'est lourd, qui sert aussi bien en bar, en discothèque et donc chez les radios locales. Il se trouve que j'en ai un, ouais, ici, dans notre studio improvisé. Le beau bébé fait 2 kilos sans sa câblerie. Et en fait, non, j'en ai 2. Et j'ai donc ouvert le généreux boîtier en alu pour en extraire la partie électronique. et on a ça. On a deux petites cartes d'une largeur de 2 cm et 30 cm de long. Bon, objectivement, il y a bien 2,5 cm de connectique qui en ressortent. Hein, voilà, comme vous pouvez le voir. Et ça fait en tout 355 grammes. Ouais, je mettrai les photos sur la page du blog, si tu ne me crois pas. Oui, donc ça fait 18% en fait réellement d'utile en termes de poids. Le reste, c'est de l'alu. Mais après, c'est blindé, effectivement, pour les raisons de fuite sonore. Tout récemment, j'étais salarié d'une entreprise qui publie une application mobile pour consulter des journaux. Les journaux leur sont fournis au format PDF. Bon, c'est un format qui est peu pratique sur smartphone, mais qui est universel chez les imprimeurs. Et ça marche à peu près partout, théoriquement, si tu as un lecteur PDF. En Europe du Nord, les journaux passent de plus en plus à l'édition purement numérique, abandonnant le papier et le PDF dans la foulée. Et chacun des journaux en question nous fournissait son SDK, un kit de développement logiciel qu'il fallait intégrer à notre application. Pour donner une idée, dès le premier SDK intégré, la taille de l'application finale doublait. En analysant le SDK du dit quotidien nordique, on trouve les SDK de 4 à 5 régies publicitaires différentes, un player vidéo, les polices de caractère et un inventaire à la Prévert. Le SDK du deuxième journal répétait presque les mêmes inclusions à une, deux régies publicitaires près et quelques traceurs indiscrets qui étaient différents, etc., etc. On allait très vite se retrouver à intégrer 6 fois les mêmes bibliothèques sans avoir le droit d'optimiser et de combiner les briques des SDK entre elles, de par le contrat de reprise avec l'éditeur de chaque journal. De toute façon, les smartphones ont maintenant 64 Go de stockage mini, alors pourquoi se casser la nénette, hein, après tout ? Oui, le problème d'avoir beaucoup d'espace libre entraîne un tic, le grobilisme. Grobil était un Parisien joueur de jeux de rôle au début des années 80 et son rapport au triptyque porte-monstre-trésor consistait à s'accaparer un maximum de ressources sans même en avoir une quelconque utilité. Il fut défini ainsi dans un revue spécialisée Casus Belli, la cervelle du canari et la puissance de feu du porte-avions nucléaire. Toute ressemblance avec le président d'une superpuissance nucléaire serait purement hasardeux et dangereux pour nous-mêmes. Et son surnom est devenu la désignation péjorative de ce stéréotype d'anti-jeu. Mais Civis Pacem 357 Magnum, l'arme de poing la plus puissante, mais l'inspecteur Harry n'est pas d'accord avec moi, et quitte à parler d'armement lourd, je vais te raconter une ultime anecdote, mais mortelle celle-là. Un développeur travaillait chez un fabricant américain de missiles air-sol. Vous savez, les fameuses bombes intelligentes capables d'exploser un hôpital sans toucher aux usines alentour. La bombinette utilise le GPS et le guidage laser pour son informatique embarquée. Le développeur expert en système embarqué s'était rendu compte qu'il y avait un problème de fuite de mémoire dans les programmes. Il avait calculé qu'au bout d'une minute, un logiciel se crachait, forcément, faute de mémoire disponible. Donc il s'en ouvre à la hiérarchie et à ses collègues sur la nécessité absolue de corriger ses multiples fuites de mémoire pour s'assurer la qualité logicielle de ses bombes volantes. Son supérieur hiérarchique trancha le débat. Bof, au bout de 30 secondes, soit la missile a atteint sa cible, soit il tombe à court de carburant. Le système ne tourne jamais une minute. Bon allez, par sécurité, on va doubler la RAM, cela nous donnera de la marge. Quant au prix, le Pentagone réglera rubis sur l'ongle, hein, et puis voilà. Alors est-ce que ça, cette histoire est vraie ? Et croyez-moi, j'ai cherché pour essayer de retrouver les références. Disons que l'information sur sa véracité et secret défense, je devrais tuer qui pourrait en douter. Tout ce que je peux dire, c'est que Saddam Hussein se retrouve à bombarder avec 4 mégaoctets de RAM au lieu de 2 mégaoctets, ce qui augmentait le prix du missile de 2 000 $ à l'époque, sur environ 500 000 $ pièce. Overkill. Enfin, de futur immédiat, le manque d'optimisation logicielle fait que nos ordinateurs, nos smartphones, ont besoin de plus en plus de mémoire, de puissance processeur, de capacité de batterie et de débit réseau. Or, bien souvent, le problème vient d'une paresse d'ingénierie en amont, une économie de développement qu'on paie au prix fort tous les jours.